Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent comme d'un vide des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur.
pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Les enfants du primaire sont attendus par le père Jean-Christophe. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Une sentence terrible en ce dimanche. L'indifférence aux autres peut conduire en enfer. Je n'invente rien. Vous l'avez entendu. Et on va essayer de le comprendre ensemble à travers cette belle parabole que nous connaissons, qui semble pourtant très étrange. Un riche, nous dit-on, et un pauvre, Lazare. La parabole ne nous dit pratiquement rien de Lazare, de sa situation religieuse, hormis sa situation de misère. On ne nous dit pas, par exemple, qu'il était vertueux. La parabole ne nous dit pas non plus que le riche en question ait fait quelque chose de mal à Lazare, qu'il aurait, par exemple, maltraité ou exploité, qu'il aurait volé d'une certaine manière, même pas qu'il lui aurait refusé l'aumône. Et pourtant, cette parabole semble nous dire qu'à cause de Lazare, ce riche se retrouve dans une situation de torture. Que s'est-il donc passé? Pourquoi se retrouve-t-il là-bas? Lui qui, apparemment, n'est pour rien, dans la situation de Lazare. La réponse nous est donnée de façon subtile. Ce riche, nous dit-on, vêtu de lin fin et de pourpre, faisait ripaille tous les jours pendant que le pauvre Lazare était couché à sa porte. Ce riche était tellement enfermé dans son univers, de sorte que, au fil du temps, un terrible abîme s'est établi entre lui et son voisin pauvre. On nous dit que Lazare était devant son portail. Donc c'est quelqu'un qui avait un domaine. On va dire qu'il était enfermé chez lui sans s'intéresser à ce qui se passait à l'extérieur. S'il est donc fautif, ce que laisse sous-entendre l'Évangile, c'est parce que ce riche, par son attitude, va à l'encontre du projet de Dieu qui, dès le début de la création, a voulu que les humains soient heureux ensemble. On se souvient que Adam, quand il est créé, un problème se pose, un problème de solitude. Dieu crée Ève pour que, Adam atteigne la plénitude. Dieu a voulu, dès le départ, deux personnes, comme pour nous faire comprendre qu'il nous voulait heureux les uns avec les autres. Cette parabole, frères et sœurs, nous met donc en garde, ou du même moins en garde, contre cette attitude de ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, et pas bien sûr, je dirais, à ce qui se passe en dehors d'eux. La parabole révèle deux vérités terribles. Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. Et la vie, ce grand cadeau que Dieu nous a fait, n'est pas tout simplement un temps qui s'écoule, mais c'est un temps pour vivre les uns avec les autres. C'est un temps de rencontre. La deuxième vérité concerne, bien sûr, le riche. Puisqu'on nous dit qu'il est riche, ce n'est pas pour rien. Et elle concerne la vraie destination de ces biens que Dieu nous a donnés. On se souvient aussi, quand il crée Adam et Ève, il leur donne toute la création en disant « Prenez ceci et soyez heureux ensemble ». Ce ne semble pas être le cas de ce riche qui oublie la vraie destination du bien, qui est celle, du moins, de la vraie destination des richesses que Dieu nous donne, qui est celle du bien commun, celle du service de tous. Alors, on peut dire qu'à travers cette parabole, Jésus dénonce les richesses dans leur usage et surtout des risques qui découlent du mauvais usage de ces richesses. D'une part, le mauvais usage des richesses peut conduire à la fermeture du cœur à Dieu, qui consisterait bien sûr, comme ces riches, à jouir des plaisirs de la vie et des biens terrestres, tout en oubliant la vie éternelle. D'autre part, et c'est souvent la conséquence logique, nous le vivons aujourd'hui, la fermeture du cœur à Dieu peut conduire aussi à la fermeture du cœur à nos frères et sœurs, de sorte que justement, comme encore ce riche, on ne voit pas le pauvre qui est couché à notre portail. Mais Jésus n'est pas contre les richesses et les riches, pas du tout. Dans la figure de ce riche, ce qu'il pointe, c'est d'ailleurs une réalité actuelle, c'est le risque que la misère des autres devienne un spectacle auquel nous nous habituons. C'est aussi le danger d'une sorte d'anesthésie de la compassion, résultat, on peut le dire, d'une surdité et d'un aveuglement volontaire face à la misère des pauvres. C'est d'ailleurs cette même indifférence qu'accuse et Amos dans la première lecture, oui, indifférence et mépris des pauvres. Ces riches incapables de s'ouvrir aux autres, c'est la figure de notre individualisme. C'est surtout notre tentation de nous désintéresser des autres, de regarder ailleurs, de passer outre, d'ignorer les situations difficiles jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. C'est le reflet aussi des barrières volontairement élevées pour isoler l'autre, surtout celui qui souffre. Et nous savons bien souvent cette fermeture du cœur conduit bien hélas à l'intolérance. En ce moment, la misère humaine n'est plus vue comme un problème social, mais comme une tare. On cherche en ce cas à éliminer non pas la misère, mais le pauvre. Je pense que nous l'avons souvent vécu. Regardez souvent par exemple les grands événements sportifs et autres. Dans certains pays, on va prendre les pauvres et on va aller les parquer quelque part où on ne les verrait pas. Et justement sur les chaînes de télévision et sur les médias, on ne montre que les choses qui sont les plus belles. dans nos pays. On ne veut plus voir les pauvres. Et pourtant, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, dit saint Irénée. Ces mots puissants résument la véritable essence du christianisme que nous avons à vivre. Oui, Dieu est descendu, on va dire dans une descente ineffable, jusqu'aux limites de notre condition humaine, jusqu'à notre souffrance et jusqu'à la mort même par son Fils. Une descente qui nous a permis d'être élevés à la stature divine, qui nous a permis d'être divinisés. Oui, l'incarnation de Jésus révèle la volonté et la dynamique de Dieu de prendre soin de manière directe de chaque être humain dans sa fragilité et sa pauvreté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que cette parabole nous montre clairement que vivre dans l'indifférence face à la misère des autres n'est pas une option possible pour le disciple du Christ que nous sommes. Saint Vincent de Paul l'avait bien compris, lui, l'apôtre de la charité, et c'est avec justesse qu'il, du moins que nous pouvons entendre de nouveau ces mots durs que nous lui connaissons à propos de ceux qui vivaient de façon indifférente à côté des pauvres. Je le cite librement. Il disait: voir son frère ou sa sœur dans la souffrance sans compatir avec lui, c'est être un chrétien en pâture. Oui, c'est être pire que des bêtes. Voilà des mots qui devraient nous secouer, frères et sœurs. De fait, le prophète Isaïe, en son temps aussi, proclamait pour nous rappeler ce que Dieu attendait de nous, pour nous rappeler ce qu'est la foi juste. Il nous disait, ou du moins il proclamait: le jeûne qui me plaît, autrement dit la manière de vivre juste devant Dieu, n'est-ce pas ceci? Partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Et plus tard, saint Paul va exhorter: réjouissez-vous avec qui est dans la joie et pleurez avec qui pleure. Mais une vraie question se pose à nous aujourd'hui. Sommes-nous vraiment capables? Sommes-nous, oui, frères et sœurs, capables de faire nôtre les drames des autres? La parabole de ce jour interroge le degré et la qualité de notre charité. Pour nous chrétiens, il est urgent de laisser résonner en nous les paroles de saint Paul entendues dans la deuxième lecture et adressées à Timothée. Toi, homme de Dieu, dit-il, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Oui, nous sommes destinés à la vie éternelle. Et la charité est ce tremplin-là vers la vie éternelle. La parabole de ce jour est très claire. Le royaume de Dieu est communion d'amour fraternel. Et c'est pour cela que Abraham peut dire à ses riches: mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Oui, celui qui n'aime pas ici-bas s'exclut lui-même du festin de Dieu où n'entrent que ceux qui savent aimer. Ce n'est pas Dieu qui décide à notre place. Saint Vincent de Paul disait: les pauvres sont nos maîtres. Oui, ils sont nos maîtres parce qu'ils sont notre visa pour le ciel. Et nous sommes invités à nous emparer de ce visa par une générosité réelle et constante. Interrogeons-nous donc aujourd'hui. Par notre manière de vivre, sommes-nous en train de préparer notre ciel ou sommes-nous en train de préparer notre enfer? Oui, c'est l'heure de vérité. Allons-nous, comme le bon samaritain, nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres et nous porter les uns les autres sur les épaules? De fait, à ce même riche, Abraham prévient: s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ces mots, bien que terribles, sont un énorme coup de trompette pour nous réveiller et réveiller surtout ceux qui vivent dans une sorte d'anesthésie spirituelle. Oui, il nous faut sortir de l'hypocrisie religieuse que dénoncent Amos et Jésus, une vie de foi qui ne porte aucun fruit. Et pour nous, chrétiens, il ne faut pas attendre qu'un ressuscité vienne nous décrire le destin qui nous attend dans l'au-delà et nous exhorter à changer de vie. Saint Jean Chrysostome disait: veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'église avec des étoffes de soie et de pourpre pour le négliger dehors, là où il souffre du froid et de la nudité. Ces mots signifient tout simplement, frères et sœurs, que l'on peut bien croire en Dieu et même l'adorer, mais que cela ne garantit pas le fait de vivre selon sa volonté. Or, Jésus ne cesse de nous dire: Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et encore, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, quand il critiquait un peu les inégalités sociales à travers le monde, aimait dire « Les uns mangent, les autres regardent, ainsi naissent les révolutions et les troubles. » Et il aimait aussi dire « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. » À travers ces mots, il invitait non seulement à une réflexion sérieuse sur la misère, mais aussi à des actions concrètes pour un monde plus juste et plus fraternel. Et je dois dire que dans l'évangile de ce jour, ce n'est pas pour rien qu'on nous fait connaître le nom du pauvre qui s'appelle Lazare. Ce n'est pas un hasard. En hébreu, El Hatsar, ça veut dire « Dieu est mon secours ». La parabole nous invite, tout comme nous l'avons aussi médité dans les psaumes, à être ce secours de Dieu, les uns pour les autres. Aujourd'hui donc, comme jadis à Caïn, Dieu nous demande « Où est ton frère ?» Allons-nous dire comme Caïn « Je ne suis pas le gardien de mon frère ?» Ou allons-nous justement, frères et sœurs, nous prêter, je dirais, prêter du moins notre concours à Dieu pour qu'il puisse exercer la charité. Gaudium et Spes, cette encyclique du Concile Vatican II, nous rappelle les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. En ce dimanche de rentrée pastorale, frères et sœurs, qui coïncide aussi avec la journée mondiale du migrant, la question qui se pose à nous fidèles de Nazareth dans l'esprit des textes de ce dimanche est bien celle-ci. Face aux diverses manières actuelles d'ignorer et d'éliminer les autres, comment pouvons-nous, nous, fidèles de Nazareth, concrètement réagir par un nouveau rêve de fraternité sociale qui ne cantonne pas seulement aux mots? Oui, faisons en sorte que cette nouvelle année pastorale nous voit réveiller le sentiment de la vraie fraternité. Comme le bon samaritain, appliquons-nous au cours de cette année à devenir proches les uns des autres. Oui, certes, il ne nous est pas demandé de résoudre tous les problèmes de la misère du monde. Jésus lui-même ne l'a pas fait. Mais une chose est claire, toutes les personnes, chaque pauvre qu'il a rencontré, chaque pauvre qui a croisé sa route, s'est senti aimé, accueilli par lui. Et Jésus ne nous demande pas de faire mieux. Travaillons donc en cette nouvelle année à renforcer notre fraternité par une véritable intégration de tous et une vraie attention pour les plus démunis. Pourquoi ne pas nous lancer un défi, du moins un défi, à chacun son pauvre, à chacun son malade à visiter ou pour lequel prier. Que Dieu nous donne la grâce et la charité, qu'il nous donne d'être engagés à son service en servant nos frères et sœurs, qui nous écoutent et nous exaucent, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.